Gulliver, l'hebdomadaire des livres, des images et des idées. À la rencontre d'un écrivain, d'un photographe ou d'un plasticien pour mieux décrypter le monde.
Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant.
Une production Divergence FM proposée par Alain Vaquier et réalisée par Bruno Bertrand.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors au sommaire de ce Gulliver, deux ouvrages. D'abord un livre et ensuite un catalogue. Le livre, c'est le dernier titre de Paul Auster. Paul Auster, voilà une décennie à peu près, ne nous avait plus donné de nouvelles. Et voilà qu'il revient avec un gros livre et un livre absolument remarquable. Ensuite, nous évoquerons une exposition. L'exposition s'appelle « Aurès 1935 ». C'est en rapport avec une expédition qui s'était ethnographique, qui s'était tenue dans les Aurès cette année-là. Et ça fait l'objet donc d'une exposition et d'un très très beau catalogue que l'on doit à Christian Féline. Et puis nous terminerons cette émission par un petit coup d'œil dans la presse spécialisée. Alors en ce début d'année 2018, Paul Auster nous revient, je disais après presque une décennie de silence, et il nous revient en force avec un nouveau roman impressionnant puisqu'il fait plus de 1000 pages. Et il s'appelle 4-3-2-1, point de suspension. Alors dans ce roman, il imagine quatre vies à partir d'un même personnage né en 1947 à New York. Comme quatre livres en un, il organise ainsi un véritable tourbillon narratif. Alors l'histoire est la suivante. À en croire une légende familiale, le grand-père nommé Isaac Reznikov quitta un jour à pied sa ville natale de Minsk avec 100 roubles cousus dans la doublure de sa veste. Passa Varsovie, puis Berlin, atteignit Hambourg et s'embarqua sur l'impératrice de Chine qui franchit l'Atlantique en essuyant plusieurs tempêtes, puis jeta l'ancre dans le port de New York. Au tout premier jour du XXe siècle, à Ellis Island, par une de ces bifurcations du destin chères à l'auteur, le nouvel arrivant fut rebaptisé Ferguson. Dès lors, en quatre variations biographiques qui se conjuguent, Paul Auster décline les parcours de quatre possibilités du petit-fils de l'immigrant. Quatre trajectoires pour un seul personnage, quatre répliques de Ferguson qui traversent d'un même mouvement l'histoire américaine des 50s et des 60s. Quatre contemporains de Paul Auster lui-même, dont le maître de Brooklyn arpente les existences avec l'irrésistible plaisir de raconter et qui fait de lui l'un des plus grands romanciers de notre temps. Nous allons écouter Paul Auster.
Un jour, je buvais du thé le matin et tout d'un coup, cette idée m'est venue de raconter l'histoire d'une vie en des voies parallèles. Je crois que c'est quelque chose sur lequel j'ai bien réfléchi quand même pendant les années, mais pas dans cette manière exacte. C'est une idée qui m'a beaucoup intrigué. Alors, juste après, le personnage était là aussi. Ferguson, mon petit garçon, Archie Ferguson. Et puis, j'ai sauté dans le texte pour expérimenter, de voir ce que je voulais faire. Au début, je pensais que peut-être j'allais suivre les quatre jusqu'à la vieillesse. Mais après 50 pages, je me suis rendu compte que non, ce livre est sur le développement humain. Et c'est sur l'enfance, jeunesse, adolescence, les 20 premières années d'une vie. Et quand je suis arrivé à ce stade-là, avec les limites du projet, j'allais très vite. C'était écrit en 3 ans. Et quelques mois après pour raffiner. Mais je comptais à 6 ou 7 ans pour l'écrire. Mais c'était là. Et c'était comme une danse quotidien. Formidable expérience. Quand j'avais décidé, à l'âge de 16 ans à peu près, de devenir écrivain, que ça c'était l'ambition la plus importante pour moi, après, j'ai beaucoup lu et beaucoup de la littérature. Pas tout, mais une grande quantité. Parce qu'on ne veut pas être un écrivain comme les autres. On veut trouver un chemin à soi. Et après beaucoup d'expérimentation dans ma jeunesse, finalement, je suis arrivé à quelque chose. Quelque chose qui était moi. Pour le pire, bon ou le pire, je ne sais pas. Chaque livre que j'ai écrit jusqu'ici, je voulais rompre avec les livres précédents que j'ai écrits, toujours de me pousser dans les directions différentes. Et voilà, ça continue. Au début, j'ai espéré d'écrire un livre qui était assez bon pour être publié. Je n'avais pas une grande idée d'une carrière ou toute une vie dans la littérature. Mais comme ça, j'ai appris qu'un livre inspire un autre. Ce qui m'a enchanté le plus quand j'étais très jeune et j'écrivais mes premiers poèmes horribles à 9 ans, j'ai éprouvé une nouvelle sensation. Et c'était que quand j'écrivais sur les choses qui m'entouraient, je me sentais plus connecté au monde, moins isolé. C'est l'inverse de la solitude. C'est une sorte de participation dans la plénitude de tout ce qui entoure. Et je crois que pour moi, l'écriture était toujours ça, une sens de partager dans la vie, de me mêler dans tout ce qui n'est pas moi. Et ça, c'est la chose, je crois, qui me pousse. Cette bonne sensation d'être une partie des choses. J'avais 20 ans. J'étais étudiant à Columbia University à New York. Je lisais pas mal le français. Je m'intéressais dans la poésie française. Mais je connaissais très peu sur la poésie contemporaine ce moment-là. Je suis allé dans une petite librairie sur le campus et j'ai trouvé une toute petite anthologie des poètes français récents. Et dans ce livre, il y avait 3 ou 4 poèmes de Jacques Dupin. Français, traduction anglaise. Et j'ai trouvé que les poèmes étaient très bons et j'étais très impressionné. Et j'ai trouvé aussi que les traductions en face n'étaient pas formidables. Pas mauvaises, mais pas très bonnes non plus. Et j'ai cru, peut-être je pourrais faire mieux que ça. Alors j'ai essayé de retraduire ces poèmes. Il y avait un poème que j'ai beaucoup aimé, c'était l'Égyptienne. Je peux le citer peut-être les 2 dernières lignes. J'écris pour m'enfuir. Pour enfouir, je crois, j'écris pour enfouir mon or. Et puis, prochaine ligne, pour fermer tes yeux. Et j'étais très, très ému par ces lignes. Et à cause de ça, j'ai continué à traduire Jacques Dupin. Et finalement, il y avait un manuscrit et je lui ai contacté et on est devenus amis. Pendant 45 ans.
Voilà, c'était les confidences de Paul Auster après la sortie de son dernier livre, donc 4-3-2-1, et c'est publié aux éditions Actes Sud, qui nous ont d'ailleurs communiqué les propos de Paul Auster. Alors pour l'année 2018, c'est la photographie documentaire qui est mise à l'honneur au pavillon populaire. Gilles Morat, le directeur de ce pavillon, propose une saison historique sous la forme d'un cycle de 3 expositions mêlant ou explorant le lien entre photographie et histoire. Alors le premier volet de cette saison s'intitule « Aurès 1935 ». Ce sont des photographies de Thérèse Rivière et de Germaine Tillon qui sont présentées. L'exposition réunit pour la première fois une sélection d'images issues d'un ensemble de plusieurs milliers de vues prises par ces deux jeunes chercheuses lors d'une mission conduite à partir de 1935 pour le compte du musée d'ethnographie du Trocadéro, futur musée de l'homme, dans l'Aurès, massif montagneux de l'Est algérien, à la lisière du Sahara. Ce massif, très montagneux évidemment, abrite alors quelques 60 000 Chaouaïas. C'est une population berbère qui conservait encore une économie agropastorale et organisée autour de ses greniers collectifs. Alors il se trouve que les deux chercheuses sont parties avec une certaine, presque inconscience on pourrait dire, en tout cas avec une grande ingénuité, puisque ça n'était pas courant à l'époque que des ethnographes, et deux femmes en particulier, se lancent dans ce genre d'entreprise. Alors nous sommes en 1935-36, en même temps que une autre mission qui s'intitule Dakar-Djibouti, en 1931-33, conduite par Michel Deris et Marcel Griol, était allée en Afrique subsaharienne. Également, il y a eu l'expédition en Amazonie de Claude Lévi-Strauss, en 1934, qui a été aussi menée au nom du musée d'ethnographie du Trocadéro. Et enfin, donc, en 1935, Thérèse Rivière est la chef de mission et elle s'adjoint le concours de Germaine Tillon. Alors, le travail absolument colossal de ces deux ethnographes a été, pendant longtemps, trop longtemps, oublié. Alors, c'est dû à deux choses. D'une part, Thérèse Rivière, qui après son travail professionnel, a été hospitalisée pendant près de 20 ans. Elle a donc disparu de la scène intellectuelle ethnographique. Et puis Germaine Tillon, je rappelle qu'on est en 1935, donc on est avant la guerre, Germaine Tillon donc a été déportée entre 1942 et 1945 à Ravensbrück en tant que résistante. Et il a fallu attendre 1987 pour que Fanny Colonna, et donc une spécialiste de l'ethnographie, retrouve et publie une centaine de tirages de Thérèse Rivière qui avaient été illustrés auparavant dans une exposition beaucoup plus restreinte en 1943. Et ce n'est donc qu'en 2000 que l'historienne Nancy Wood a exhumé chez Germaine Tillon les quelques 1200 négatifs pris au cours de cette mission de 1935 et a identifié aux archives françaises du film le moyen-métrage « L'Aurès » alors tourné par Thérèse Rivière. Par la suite, le musée du Quai Branly a numérisé plusieurs milliers de clichés et fiches illustrées de Thérèse Rivière provenant du musée de l'Homme. Au total, la masse des images fixes et animées, les dessins, les enregistrements sonores, les notes de terrain réunies par les deux chercheuses et le millier d'objets versés par elles dans les collections du musée donnent la mesure de cette réflexion exceptionnelle que l'on doit à ces formidables ethnographes de terrain. Ce qui est le plus caractéristique dans cette exposition, c'est que toutes les photographies traduisent une immense empathie pour la population qui est photographiée. Chaque photographie se fait à hauteur de regard, aucune condescendance, un véritable échange a lieu entre le photographié et les photographes. Les photographies sont d'une impressionnante modernité et le travail qu'a fait Christian Féline, le commissaire de l'exposition, est absolument formidable. Et c'est lui-même qui nous explique la façon dont il a procédé.
« Vous êtes donc le commissaire d'une exposition absolument remarquable qui a lieu au pavillon dit autrefois populaire, aujourd'hui grande salle d'exposition d'art photographique. Ça s'appelle Aurès 1935. Et ce sont des photographies de deux ethnographes qui, Germaine Tillon, j'ai oublié le nom de la seconde, mais vous allez nous le préciser, qui ont mené une mission dans ces années-là dans le massif des Aurès en Algérie. Alors il y a plein de choses, il y a plein de questions qu'on se pose. Deux femmes en Algérie, une mission en 1935, époque où l'ethnographie française était un peu en ébullition, en phase ascendante. Quelle est l'opportunité de cette exposition ?
Ben, écoutez, ce qui m'a intéressé, c'est que c'est un témoignage de cette pratique de la photographie ethnographique, c'est-à-dire des enquêtes qui étaient menées dans des sociétés différentes des nôtres, sous la forme d'observations, d'enquêtes écrites et de photographies pour essayer de comprendre ces sociétés, ce qu'était l'ambition de ce qui est devenu le Musée de l'Homme en 1937. Ce qui est intéressant, c'est que cette mission, à la différence d'autres qui ont été plus connues, mais qui parfois se sont menées sur une période très brève, dans des endroits plus exotiques, ça s'est fait dans un territoire relativement proche. L'Algérie était l'Algérie coloniale de l'époque et c'était un département français. Mais cette société, parce qu'elle est dans un massif montagneux un petit peu reculé, qui n'avait pas fait l'objet de colonisation agricole, avait conservé la plupart de ses caractéristiques traditionnelles, des sociétés villageoises, semi-nomades, à la lisière du Sahara. Et effectivement, le fait que cette mission ait été faite par deux femmes qui se sont installées, ont obtenu la confiance de cette société et l'ont observée pendant plusieurs années, fait que les photographies qu'elles ont prises ne sont ni pittoresques ni exotiques. Elles témoignent d'une observation très, très proche, très respectueuse, d'une relation qui chacun dans sa position, qui n'est pas la même, mais une relation de respect et de sympathie. Et donc, nous apprend beaucoup de choses, à la fois sur cette société et sur cette relation humaine. D'autre part, ces deux ethnographes, Germaine Tillon est très connue, comme grande résistante, comme grande intellectuelle. Vous savez qu'elle a été enterrée au Panthéon récemment, enfin, transférée au Panthéon récemment. Thérèse Rivière, qui était sa collègue et qui dirigeait la mission dans les années 30, est moins connue, mais c'est une très grande photographe. Elle a laissé d'ailleurs beaucoup plus de photos que Germaine Tillon, et avec un regard assez différent. Donc, on a la chance, et là, je crois que l'exposition le montre bien, d'avoir sur une même société une observation faite dans le temps, patiemment. On ne vient pas faire un reportage à toute vitesse. On essaye de comprendre, on montre avec sympathie les personnes qu'on a appris à connaître. Et elles ont chacune un regard photographique très différent. Et donc, ça donne un espèce de relief, de complexité, qui permet, je crois, pour les visiteurs, à la fois de mieux comprendre cette société, parce qu'ils le voient à travers une vision qui est complète, complexe, et en même temps de comprendre ce que c'est que la photographie. Hein. C'est-à-dire qu'avec les mêmes appareils, dans la même situation, par ce qu'on est, par les choses qui vous intéressent, par le sens visuel qu'on a, qui peut être différent, on peut offrir des images très différentes. Et ça permet de comprendre aussi que la photographie, c'est pas simplement des images d'une réalité. Quand on voit un portrait, on voit l'image de quelqu'un qui peut être très différent de vous, donc on apprend des choses, on voit son humanité. Mais on voit aussi, d'une certaine façon, la relation humaine, absolument, qui peut être d'autorité, de violence, de respect, de sympathie, selon les cas, entre le photographe et le modèle. Hein. Et on confronte, par exemple, dans l'exposition, ces photographies très humaines, on peut dire, prises dans le respect mutuel.
À hauteur de regard, chacun,
oui,
tout le temps.
Hein. Absolument.
Il n'y a pas de, avec, ni de plongée, ni
avec des photographies prises dans la même région, par l'armée française au moment du contrôle d'identité. On voit dans l'image que ce sont les mêmes gens, mais c'est pas la même situation, c'est pas la même relation, c'est pas le même regard. Voilà, donc je crois que ça nous rend proche quelque chose qui pourrait sembler lointain dans le temps. Et ça montre aussi la beauté, la dignité préservée de cette société.
Alors c'est aussi une exposition sur les femmes, mais les femmes à la fois celles qui les photographent, mais aussi celles qui sont photographiées, puisqu'il y en a beaucoup.
Oui, alors,
et donc ça, c'est pas négligeable quand même.
Alors d'abord, ça nous montre les femmes de cette société dite Chaouya, qui était une société berbère de cette région, et qui avait un statut de relative indépendance, jouait un rôle social très important, un rôle essentiel dans l'économie domestique et dans l'économie agricole, et avait dans les familles une position assez forte. De ces femmes musulmanes n'étaient pas voilées. Celles d'entre elles qui, après avoir été mariées, pouvaient être séparées, parfois à leur propre initiative, menaient une vie indépendante et qui étaient reconnues, acceptées. Donc on voit des portraits de femmes qui sont sereines, fortes, travailleuses, des mères de famille, mais qui ont joué un rôle social qui leur est propre, même si la vie civique, l'organisation des villages, etc., dépendait plutôt des hommes. Et la qualité de cette enquête photographique tient peut-être au fait qu'elle a été conduite par deux femmes qui ont su se faire accepter d'abord par d'autres femmes, d'entrer dans des foyers, ce qui n'aurait peut-être pas été possible pour des hommes, ou était une relation plus autoritaire ou plus tendue. Et à travers cette présence, de se faire respecter et de créer une relation de sympathie aussi avec les hommes, qui apparaît dans les photos. C'est un moment rare qui donne à cette mission une très grande qualité, à mon avis, et une proximité. Je crois que cette exposition, c'est pas... On comprend que c'était une démarche documentaire au départ, mais on ne voit pas ça comme du matériau froid. Je crois que c'est une exposition où on participe à la fois de la vie de ces deux chercheuses, on comprend ce qu'a pu être leur présence dans ce pays, et de la vie de cette société qui aujourd'hui a bien changé vu toute l'histoire.
Voilà, merci à Christian Féline de cet éclairage sur donc cette exposition Aurès, 1935, photographie de Thérèse Rivière et de Germaine Tillon, et qui a lieu donc au pavillon populaire du 7 février au 15 avril. C'est une exposition qui comporte deux films vidéo qui durent l'un une dizaine de minutes et l'autre une bonne vingtaine de minutes. Donc si vous allez visiter cette exposition, prenez un peu de temps parce qu'en dehors de la visite, il y a aussi la projection des films. Alors avant de faire un petit tour dans les publications plus ou moins spécialisées, je voudrais vous signaler une exposition qui va avoir lieu à la Panacée. On aura probablement l'occasion d'y revenir, mais ça s'appelle Crash Test. Ça commence le samedi 10 février et elle est exposée jusqu'au 6 mai. C'est donc une exposition à caractère scientifique sur la révolution moléculaire et c'est à la Panacée. On aura probablement, encore une fois, l'occasion de revenir dessus avec une interview du commissaire de l'exposition. Alors, un petit tour dans les revues spécialisées. Alors, je dis plus ou moins parce que, comme je vous l'avais annoncé, le magazine littéraire donc, a fait peau neuve. Ça s'appelle aujourd'hui le nouveau magazine littéraire. Et le numéro qui est daté du mois de février, donc, est un numéro spécial. Alors, ce nouveau magazine littéraire essaie d'aller plutôt vers le domaine des idées que vers la littérature, même s'il y a un certain nombre de notes de lecture
Et dans ce numéro, numéro qui se qualifie de numéro spécial, eh bien c'est un gros dossier, une grosse partie qui s'intitule « Notre révolution ». Et à partir des événements d'actualité qui ont eu lieu sur le fait qu'un certain nombre d'actrices de cinéma ont dénoncé un producteur, et puis toute la campagne qui s'en est suivie, eh bien le nouveau magazine littéraire fait donc tout un dossier là-dessus, en interrogeant un certain nombre d'écrivains, de philosophes, de sociologues qui donc reviennent sur cette question de la parole libérée. Et c'est sous le titre « C'est une révolution », ceci n'est pas une simple révolte, que s'ouvre ce dossier dont je lis le chapeau « Les femmes parlent, les hommes écoutent, nous assistons au renversement d'un ordre aussi vieux que l'humanité elle-même, celle des sexes et du discours, plongée au cœur de ces trois mois qui firent trembler le monde en inversant la hiérarchie des mots ». Je trouve que ce chapeau est un peu prétentieux. Je ne suis pas sûr qu'on assiste à la révolution à laquelle nous convie ce chapeau. Enfin bref, et puis pour terminer, toujours dans le même esprit évidemment, ce magazine se termine sur un petit dossier, une petite enquête sur Antigone. Alors évidemment, Antigone, célèbre héroïne, s'il en fut, en matière de féminisme. Et donc le titre en est « Antigone, de quoi est-elle le nom ?» une expression qu'on a déjà lue dans d'autres livres. Elle est une, voilà le sous-titre, elle est l'une des plus anciennes figures de résistance à l'ordre patriarcal. Réclamant une sépulture pour son frère, Antigone s'oppose à Créon, son oncle devenu roi de Thèbes. Depuis l'Antiquité, leur affrontement cristallise de nombreux clivages entre femmes et hommes, jeunes et adultes, individus et sociétés, lois non écrites et droits positifs. L'héroïne de Sophocle échappe ainsi aux récupérations et divise jusqu'aux féministes. Enquête sur une révolte fondamentale, toujours ambiguë et donc éternellement vivante. Voilà, c'est ce qui clôture ce numéro du nouveau magazine littéraire numéro 2, février 2018, avec une allusion d'ailleurs au dernier livre sorti inédit du philosophe Michel Foucault, qui, comme vous le savez, nous a quittés maintenant depuis quelques années. C'est un hors-série de Philosophie Magazine qui nous le rappelle, avec un gros dossier sur donc Michel Foucault à l'occasion de la sortie de cet inédit qui s'intitule « Les aveux de la chair » qui est sorti chez Gallimard. Voilà, alors ceux qui s'intéressent à Foucault, ce penseur du pouvoir et de la sexualité, eh bien voilà un beau dossier auquel nous convie Philosophie Magazine. C'est un hors-série, alors avec quelques titres chocs qui fait bien le tour de la personnalité de Foucault, la société de surveillance de Big Brother à Big Data, puisque vous savez que pour Foucault, nous n'étions plus dans la société du spectacle, mais dans la société de surveillance. C'est quand même une sacrée distinction. Autre expression de Foucault, à bas le sexe, vive le plaisir. Faire de sa vie une œuvre d'art, ce qui en fait pas un opposant, mais en tout cas un penseur très différent de Sartre, dont d'ailleurs un beau tableau dans ce numéro met en parallèle les pensées des deux philosophes et leurs différences, même si à un moment de l'histoire, ils se sont retrouvés tous les deux pour défendre un certain nombre de combats pour la liberté et contre la censure. Voilà, c'est donc un numéro de philosophie, un hors-série de Philosophie Magazine qui vient juste de sortir avec un extrait du dernier livre de Foucault, donc « Les aveux de la chair ». Voilà, ainsi s'achève ce numéro de Gulliver et à la semaine prochaine.
Gulliver, l'hebdomadaire des livres, des images et des idées. À la rencontre d'un écrivain, d'un photographe ou d'un plasticien pour mieux décrypter le monde.
Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant.
Une production Divergence FM proposée par Alain Vaquier et réalisée par Bruno Bertrand.